Ce qui m'a d'abord frappé en lui, c'était le rayonnement de sa vie intérieure. On était devant un homme consacré, sans désir personnel, sans ambition, d'une totale sincérité et humilité intellectuelle qui ne cherchait qu'à servir. Celui dont on parle, c'est Robert Schumann. Robert Schumann goûte une enfance heureuse, enfant unique d'un couple profondément chrétien, dans une alternance entre les études, où il excelle, et des visites en Lorraine, terre paternelle dont il s'éprend. Il a 4 ans quand la couronne du Luxembourg passe au grand-duc Adolphe et cet événement le marque. Perdu dans la masse, je m'enflammais de son enthousiasme, je partageais sa fierté. J'ai acquis là les premières notions du patriotisme. Je savais désormais ce qu'est l'amour du pays. Son enfance et son adolescence baignent dans un triple courant culturel. Robert parle le luxembourgeois, l'enseignement est bilingue, français et allemand. Robert Schumann grandit en sagesse, en taille, en grâce, tant au plan intellectuel qu'au plan spirituel. La Bible est son livre de chevet, il récite le rosaire, fréquente l'Eucharistie. Il choisit d'étudier le droit et son parcours le mène de Bonn à Cologne, puis à Munich, à Berlin, pour finir à Strasbourg. Il constitue là les bases d'un enrichissement spirituel et intellectuel considérable. Le 30 août 1911, sa mère est tuée dans un accident de cheval. Robert, foudroyé par cette tragédie, songe à se retirer dans un monastère pour y devenir prêtre. Son meilleur ami l'en dissuade. L'apostolat laïque est une nécessité urgente. Tu resteras laïque parce que tu réussiras mieux à faire le bien, ce qui est ton unique préoccupation. Les saints de demain seront des saints en veston. Robert adhère donc à la grande orientation de sa vie, faire passer le bien commun avant son intérêt propre. À 26 ans, il devient avocat. Il s'installe à Metz et ne tarde pas à être connu. Selon ses contemporains, ce qui frappe chez lui, c'est sa vie spirituelle. Quand il était sûr de ce qu'exigeait de lui sa voix intérieure, il prenait brusquement les initiatives les plus hardies et les poussait jusqu'au bout. En 1919 sont prévues les premières élections législatives d'après-guerre. Sollicité, Schumann refuse. Ceux qui connaissent sa valeur et sa précieuse connaissance du droit allemand l'encouragent. La Lorraine a besoin de vous pour préserver son âme. Il accepte cette mission qui va changer sa vie. Sa modestie, son allure effacée ne cachent pas au bon sens populaire sa compétence. Approuvant le réel progrès social apporté par le Front populaire, il est considéré comme l'homme de la sagesse, de la pondération et de la paix, défendant une politique de réalisme sans idéologie. La tourmente de la Deuxième Guerre mondiale marque la débâcle de la Troisième République. Arrêté par les nazis, il garde une confiance inébranlable en la Providence. Ce prophète de la paix devient ministre des Finances en 1946 et il s'attelle à rétablir l'équilibre financier. Les chrétiens doivent s'acquitter au mieux de leurs tâches car ils œuvrent à l'édification du règne de Dieu sur la terre. Il fait sourire parce qu'il éteint lui-même le soir les lumières des bureaux. Ce sont les petites économies qui font les grandes. Cette rigueur dans la gestion des affaires publiques le conduit à être chef du gouvernement de 1947 à 1949. En 1948, il est nommé ministre des Affaires étrangères et, dans le contexte dangereux, antagoniste de la guerre froide, il porte en lui plus vivant que jamais le rêve d'une Europe unifiée. Ce qui va rendre possible le rapprochement franco-allemand, c'est l'amitié qui se crée entre Schumann et un homme qui lui ressemble. Comme lui, catholique fervent, comme lui, amateur d'histoire, comme lui, simple, le chancelier allemand Konrad Adenauer. C'est en tant que ministre des Affaires étrangères que Robert Schumann effectue sa fameuse déclaration du 9 mai 1950, qualifiée du plus beau jour de sa vie. Son intuition est la suivante. L'Europe se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition de la France et de l'Allemagne soit éliminée. Par cette déclaration, par cette main tendue à l'Allemagne, Robert Schumann entre dans l'histoire. L'année suivante, il signe le traité de Paris, instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui sera suivie par la Communauté économique européenne. Ses importantes responsabilités ne l'empêchent pas de mener une vie très simple, qu'il soit à Paris ou ailleurs, il se rend à la messe tous les jours. En 1953, il va parcourir le monde entier, il est surnommé le pèlerin de l'Europe, le père de l'Europe, et il explique « Le projet ne consiste pas à fusionner les nations qui doivent rester indépendantes, mais à unir ce qui est divisé. » Le 19 mars 1958, jour de la fête de Saint-Joseph, se réunit pour la première fois l'Assemblée parlementaire européenne et elle élit Robert Schuman à sa présidence. Mais déjà en 1959 commencent les premières atteintes d'une sclérose, des artères cérébrales. Dans la paix, dans la sérénité, il décline et il s'éteint en 1963. Il déclarait « La paix mondiale ne peut être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. La loi universelle de l'amour et de la charité a fait de tout homme notre prochain ».